Et bonjour à vous, bienvenue dans Ethnovibro, l'effet social total, votre émission engagée de sciences humaines et sociales qui articule recherche, actualité politique, exploration pluridisciplinaire et parfois, oui, monde académique. Régulièrement d'ailleurs, je vous propose de rencontrer un ou une chercheuse pour aborder l'anthropologie au travers de son parcours, toujours singulier, et de sa personnalité qui évolue avec objets d'études spécifiques, terrain, regard, et aussi parfois ses frictions avec l'institution. Cela nous informe, d'une façon originale et vivante, de l'actualité des sciences sociales, de la recherche en France et ailleurs, et plus largement bien sûr de l'état de la société contemporaine. C'est toujours un bonheur pour moi de rencontrer un chercheur, surtout quand il est anthropologue. Toi-même tu sais que la compagnie des anthropologues est quand même sacrément précieuse et chouette. En tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup être en présence d'anthropologues et un grand nombre d'entre eux et d'entre elles ont considérablement changé mon regard, mes positionnements, bref, ma vie. Nous allons donc aujourd'hui et ensemble plonger dans un parcours de recherche, dans une pensée anthropologique, donc nourrie d'expériences de terrain, de réflexions contemporaines, d'interactions avec le contexte politique et social, de résonance avec les urgences du moment. Voilà un anthropologue qui crée des passerelles entre recherche, monde militant et société civile et nous parle à bâton rompu, même quand le monde académique n'est pas prêt. Ethnovibro, l'effet social total, l'est pour vous. Bienvenue dans cette heure privilégiée avec l'anthropologue Harry Gordien. Ethnovibro. L'effet social total. Harry Gordien est anthropologue chargé de recherche au CNRS. J'ai d'abord découvert ses travaux sur l'appropriation culturelle et c'est à ce sujet que nous l'avions invité le 5 novembre dernier au bistrot des ethnologues pour une séance aux côtés de Jean-Luc Bognol et Jocelyne Streffenhardt. J'en ai donc profité pour interviewer Harry Gordien sur son parcours et l'ensemble de ses travaux, caractérisés par une approche intersectionnelle. Nous allons effectivement l'entendre parler d'identité et de politique, de race, de sexualité, de croisement entre grande histoire avec les mouvements sociaux et indépendantistes antillais et petite histoire avec le militantisme familial dont il a hérité. Nous apprendrons comment l'anthropologie permet de redécouvrir autrement l'histoire de son propre pays et aborderont avec Harry les thèmes de l'esclavagisme, du racisme et de l'antiracisme, de l'appropriation culturelle, en passant par les Antilles francophones, les Caraïbes anglophones, la Jamaïque, la Seine-Saint-Denis et Marseille. Tout ça aussi pour découvrir avec lui qu'un parcours de recherche, ce n'est pas un voyage de croisière. C'est parti pour une heure de rencontre avec Harry Gordien, c'était au Jardin botanique de Montpellier, et aussi avec quelques vibrettes musicales rajoutées, des vibrettes qui bien sûr vont bien avec le thème. Alors c'est parti pour une heure avec Harry. Bonjour Harry Gordien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Ethnovibro. Nous nous sommes assis au Jardin des Plantes, Jardin botanique de Montpellier, car Harry, tu nous as rejoint aujourd'hui pour participer au Bistrot des Ethnologues. Vous donnerez les références pour réécouter la séance de la soirée. Pour l'instant, on est juste tous les deux et j'en profite donc pour t'accueillir et traverser cette émission avec toi sur ton parcours, tes recherches passées, présentes, et futur aussi, peut-être. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier ?
Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Mon métier, alors je suis anthropologue chargé de recherche au CNRS. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer ce que c'est, en même temps c'est très simple. Mon métier consiste à pratiquer l'anthropologie, à faire mes recherches sur le terrain, on va parler de mes différents terrains, écrire dessus, parler de ces sujets-là aussi. J'enseigne aussi parfois un petit peu dans les universités.
Alors là, en ce moment, tu enseignes ou tu travailles où exactement ?
Alors en ce moment, je fais une recherche à Marseille sur les milieux qui se disent plutôt militants, activistes, à la fois LGBTQIA+, et racisés, voire plus spécifiquement afrodescendants. Et moi, j'essaie de comprendre, après avoir déjà travaillé un peu sur ces questions-là il y a bien longtemps, où les termes du débat étaient assez différents, j'essaie de comprendre comment, spécifiquement à Marseille, mais un peu dans notre génération en France aujourd'hui, comment et pourquoi des personnes cherchent à penser ensemble les différents rapports sociaux qui ont façonné leur trajectoire en termes, souvent on dit classe, race, genre, mais il y a aussi la sexualité. Et moi, je vois aussi la classe, le parcours migratoire des parents, etc., etc. Donc j'essaie de comprendre pourquoi ils cherchent, ils et elles cherchent à penser leur trajectoire et avec quels outils ils le font et qu'est-ce que ça donne concrètement après dans leur vécu au quotidien et en termes d'action politique aussi.
Alors c'est un sujet que tu avais abordé il y a longtemps déjà et qui est revenu ces derniers temps dans ton champ de recherche.
Oui, complètement. En fait, mon tout premier terrain de recherche ethnographique, c'était les milieux gays antillais de Paris avec des personnes très majoritairement afro-antillaises, c'est-à-dire antillais d'ascendance africaine, issues des captifs africains qu'on a transbordés dans les Antilles, esclavisés, plus ou moins de métissage avec des colons, avec des travailleurs indiens arrivés dans la région après, qui étaient en fait en Île-de-France pour la plupart. Ils étaient nés, ils avaient grandi, c'était essentiellement des hommes gays, ou qui s'identifiaient aussi parfois comme bi, qui avaient vécu l'essentiel de leur existence en Guadeloupe ou en Martinique et qui étaient arrivés, comme beaucoup d'Antillais, dans l'Hexagone et plus spécifiquement en Île-de-France pour les études, le travail, et qui découvraient par la même occasion un monde gay qui n'était pas aussi visible, qu'il n'y avait pas une offre très grande en Guadeloupe et en Martinique à l'époque où ils étaient adolescents, de boîtes, de bars, etc. Donc ils découvraient un monde gay, des espaces, des amis aussi qui pouvaient dans l'anonymat parisien se retrouver, créer des entre-soi un peu safe, comme on dit aujourd'hui. Donc ça, c'était une première partie du terrain. Et l'autre partie du terrain concernait des associations militantes, déjà, qui essayaient de défendre les intérêts, ou en tout cas de parler au nom des personnes LGBT. On ne disait pas LGBTQIA+, à l'époque, c'était LGBT, noirs et métis, en abordant aussi la question des DOM et de l'outre-mer. Et ces associations-là, à l'époque, leur objectif était d'aborder tout ce qui était au croisement du racisme et de l'homophobie, tout en interrogeant les manifestations spécifiques de l'homophobie aux Antilles. Et j'avais interviewé deux leaders d'associations et rencontré quelques membres, mais l'une des associations était un peu en sommeil à cette période-là et l'autre commençait tout juste à créer son activité. Donc le cœur de la recherche, c'était vraiment les soirées en boîte de nuit, les soirées privées organisées aussi par ce réseau de jeunes hommes antillais, majoritairement guadeloupéens, qui allaient à ces boîtes de nuit et qui m'invitaient à les suivre et à participer avec eux à cette vie nocturne parisienne.
Ces premiers terrains et maintenant ton retour un peu, on va dire, sur un terrain similaire à Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours universitaire pour que tu deviennes chercheur au CNRS ?
il s'est passé énormément de choses. Alors premièrement, ce mémoire-là, je n'ai pas continué à travailler sur cette question qui m'intéressait beaucoup, puisque le monde universitaire, on pourra en dire un mot plus tard, n'était pas forcément préparé. On ne parlait pas du tout d'intersectionnalité à l'époque. Les questions raciales émergeaient, surtout en sociaux et dans les milieux antiracistes, mais dans l'université, on voit encore aujourd'hui que ça fait débat. À l'époque, il n'y avait pas grand monde, surtout dans mon université, qui travaillait là-dessus. Et moi-même, j'abordais pas forcément les choses depuis cette perspective-là. J'interrogeais plutôt l'antianité du fait de mon parcours militant, de l'histoire militante de ma famille, etc. C'était davantage une entrée par l'antianité, par le biais de laquelle se posait la question de la condition noire et du racisme, etc. N'ayant pas le contexte favorable pour continuer à explorer cette question-là en toute tranquillité, je me suis dit qu'il était plus prudent pour moi, en tout cas, de changer de voie. Et en fait, à cette période-là, on était donc en 2008-2009, il y a eu les grandes grèves en Guadeloupe et en Martinique. On est en train de parler encore aujourd'hui de la question de la vie chère. Il y a eu des mobilisations en Île-de-France et ailleurs. Il y a de fortes mobilisations, surtout en Martinique, en ce moment. Et à l'époque, en 2009, le Lirnage contre Profitation, LKP, cette alliance de mouvements anticolonialistes, anticapitalistes, des syndicats, des associations carnavalesques, et aussi des partis, ce qu'il restait des partis anticolonialistes guadeloupéens, s'étaient rassemblés pour lutter contre la vie chère, en fait, ce système économique, cette dépendance économique à la France qui produit et reproduit des inégalités sociales et raciales et qui ne permet pas de produire, en fait, localement de la richesse. Ces questions-là étaient abordées et je me suis dit, c'est fou, je suis issu d'une famille militante, mais ayant surtout grandi en Île-de-France, je ne connaissais pas tellement cette histoire militante. Par hasard, j'ai pu entendre justement l'un des leaders, l'un des membres fondateurs d'un parti indépendantiste guadeloupéen, Louis Théodore, qui, quelques mois avant la grève, était intervenu dans une association antillaise à Paris et qui racontait en fait toute cette histoire que je méconnaissais totalement, le mouvement de décolonisation, la création des premières organisations indépendantistes guadeloupéennes, des voyages qu'ils avaient fait, des liens qu'ils avaient avec la Chine de Mao, avec l'Union soviétique, avec d'autres mouvements de décolonisation. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment un terrain qui m'était inconnu, que j'avais beau être un Guadeloupéen de Paris ou un Parisien d'origine guadeloupéenne ayant vécu un peu en Guadeloupe, tout ce pan de l'histoire de cette terre où j'avais vécu et où je compte beaucoup d'attaches familiales m'était méconnu. Et j'ai eu envie à la fois de comprendre ce qui se faisait dans la période contemporaine avec le LKP et d'essayer de comprendre le lien avec cette histoire anticolonialiste, parce qu'il y avait déjà un lien évident. Le syndicat majoritaire en Guadeloupe qui avait lancé cette mobilisation était l'une des émanations en fait, de l'indépendantisme des années 60-70. C'était les militants indépendantistes d'inspiration maoïste qui avaient créé ce syndicat dans les années 70. Et des dizaines d'années plus tard, en 2009, ce même syndicat lance le LKP et lance cette alliance contre la profitation, contre l'exploitation en Guadeloupe. Donc j'ai fait un deuxième mémoire sur cette question-là, mon mémoire de Master 2, qui m'a inspiré mon sujet de thèse autour de la question du nous guadeloupéen, du sentiment d'appartenance guadeloupéen et de ce qu'on appelle, de manière très générique, peu satisfaisante, l'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire être guadeloupéen ? Pour ça, j'ai décidé de ne pas considérer que l'identité était une chose objective, concrète, qu'on pouvait saisir une bonne fois pour toutes et observer de manière objective. Je me suis intéressé à une approche plus subjectiviste, on va dire, de l'identité. Je me suis demandé, mais en fait, pour les Guadeloupéens, qu'est-ce que ça veut dire être Guadeloupéen ? Qui se considère Guadeloupéen ? Qui est perçu comme tel ? Est-ce qu'il y a des contradictions entre les deux ? Et en fait, quelles sont les définitions qui sont données par les uns et les autres, les unes et les autres ?
Toute la nuit à deuil là, soleil là j'ai qu'à chauffer, tout vini qu'à manger nous, ou vini à soifer nous, combien nous que t'y vous, si t'y n'y vous, si t'y n'y
vous, si t'y n'y vous,
Just say profiter, négocier pour négocier. Une des lois qui j'a voté, qui paie des dossiers, Guadeloupe. Montant des ordres appliqués, yo, faut arrêter faire GBC.
La Guadeloupe, c'est Guadeloupe, la Guadeloupe, c'est Bagayo. Tout est qui fait ça, yo, ça y est, ma pays en nous. La Guadeloupe, c'est dans nous, la Guadeloupe, c'est Bagayo.
Monsieur,
nous pas garder la mafia, yo si c'est en étable. L'offre pas ou l'achapé, c'est mouna yo qu'a tremblé. Yo mandé ou yo sorti, li en a grande population.
La Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bagayo. Yo te que fait ça yo vle, ça yo va payer en nous. La Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bagayo. Yo te que fait ça yo vle, ça yo va payer en nous.
Si vous payez un peu pour la gila, jusqu'à bourgeonner, la Guadeloupe vient éclairer, nous une dignité courage, nous caillons dans son sale histoire, Guadeloupe est gardé l'espoir, nous à tout mille et en broca.
La Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bataillon, nous t'aimons que ça y est, ça y est ma pays en nous, la Guadeloupe c'est dans nous, la Guadeloupe c'est bataillon, nous t'aimons que ça y est.
Une fois docteur, avec ce sujet sur l'antillanité, comment tu continues ta route de chercheur ?
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance pendant ma thèse,
Harry
d'une certaine
Gordon.
Manière. Premièrement, j'avais fait la rencontre de chercheuses, surtout, et de quelques chercheurs, des historiens, quelques anthropologues liés au CNRS, à l'EHESS, dont Myriam Cotias, Elisabeth Cunin. Donc Myriam Cotias, historienne au CNRS, qui travaille sur l'esclavage aux Antilles, Elisabeth Cunin, qui s'intéresse à la question du métissage en Colombie et qui travaille maintenant sur les populations afrodescendantes de Colombie et du Belize. Et c'était des chercheuses qui, un peu en marge du monde universitaire, travaillaient déjà sur des questions liées à l'expérience esclavagiste, à la colonisation, aux mécanismes de racialisation aussi, et qui avaient pris connaissance un peu par hasard de mes travaux. Elles savaient que je parlais l'anglais parce que, avant mon parcours en anthropologie, j'avais étudier les langues étrangères à la Sorbonne, et elles m'ont recruté pour un contrat postdoctoral, c'est un CDD, hein, pour ceux qui ne savent pas. On utilise de grands mots dans le monde universitaire pour impressionner la galerie. Mais en fait, c'est un CDD. On considère que même après une thèse, il faut encore faire ses preuves. Et que pour faire ses preuves, il faut faire des CDD d'un an, de deux ans, de trois ans. Et là, j'ai été recruté pour un an. Et ma tâche consistait à faire une ethnographie des milieux militants en Afrique anglophone autour de la question des réparations liées à l'esclavage. Parce que les chercheuses dont j'ai parlé faisaient partie d'un réseau plus vaste qui avait obtenu un financement de l'Agence nationale de la recherche, cet organisme qui finance des projets de recherche. Et ce projet de recherche avait pour but d'interroger la question des réparations liées à l'esclavage, des réparations des indemnités liées à l'esclavage, aussi bien celles payées aux colons après l'abolition de l'esclavage pour la perte de leur propriété humaine, puisqu'on ne sait pas, mais tout comme l'Angleterre, la France a versé une indemnité, premièrement aux colons Saint-Domingue, qui est devenu Haïti après la prise d'indépendance d'Haïti, pour la perte de leur propriété humaine et le fait qu'ils aient été chassés de la colonie. Et ensuite, après l'abolition de l'esclavage de 1848, aux propriétaires d'esclaves des colonies françaises où l'esclavage s'était produit. Donc il y avait ce volet historique-là et un volet contemporain, interroger concrètement ce que l'esclavage avait produit comme inégalité qui perdurait, qui se reproduisait dans la période contemporaine, et interroger aussi l'existence de mouvements militants qui revendiquaient des réparations, non seulement du fait de l'esclavage, mais surtout du fait de ces inégalités liées à l'esclavage et qui se reproduisaient dans le présent. En faisant quelques recherches avant ma prise de fonction, je me suis rendu compte que ce n'était plus tellement en Afrique anglophone qu'il y avait le plus de militants qui cherchaient à poser la question des réparations liées à l'esclavage, c'est davantage dans la Caraïbe anglophone et surtout en Jamaïque. D'où la décision de partir en Jamaïque, en fait, pour m'intéresser à la Commission nationale pour les réparations qui avait été fondée en Jamaïque en 2009. Et par la suite, le Jamaïque, au sein de la CARICOM, la communauté caribéenne, s'était allié à différents États de la Caraïbe pour poser la question des réparations à une échelle régionale, où une sorte d'expertise avait été mise en place pour comprendre quels avaient été les effets de l'esclavage sur le long terme et quel type de réparation était demandé.
Donc, Harry Miscorde.
Malheureusement, c'était un contrat assez court. Donc, j'ai été deux mois en Jamaïque où j'ai pu interviewer beaucoup de membres de cette commission, rencontrer des personnes qui n'étaient pas membres de la commission mais qui abordaient cette question-là également, et faire aussi une sorte de base de données multilingue, une veille informative aussi pour comprendre quelles étaient les revendications qui étaient demandées, réclamées, et aussi quels étaient les acteurs qui étaient impliqués dans ce mouvement. Donc ça, c'était le premier CDD. Par la suite, il y a une période de précarité. Il faut en parler parce que ça fait partie du monde de la recherche. Je me suis retrouvé au chômage, sans appartement. Donc je suis retourné vivre chez papa-maman, comme un tanguy. Et pour me sentir un petit peu plus en contrôle de ma trajectoire de vie, j'ai décidé que je ne pouvais pas être chez mes parents et au chômage. Donc j'ai commencé à travailler, à chercher du travail. Et sans vous donner tous les détails, j'ai été un très mauvais prof d'anglais pendant un semestre. Ce après quoi, j'ai été recruté pour un second CDD à l'Université Paris 8, en lien avec un autre laboratoire du CNRS qui s'appelle l'Institut du Temps Présent, où j'ai effectué une recherche sur l'antiracisme en Seine-Saint-Denis pendant un an aussi à peu près à cette période-là, dans des conditions un peu précaires concernant à la fois le paiement et le matériel, etc. Mais j'ai mené une recherche sur le militantisme antiraciste en Seine-Saint-Denis. L'idée était de comparer les deux branches de l'antiracisme qu'on oppose de manière un peu schématique entre militantisme antiraciste moral et militantisme antiraciste politique, c'est-à-dire d'un côté les associations historiques fondées à partir du 19e siècle pour combattre l'antisémitisme et les autres formes de racisme dans une optique républicaine, universaliste, où on trouve essentiellement des personnes identifiées comme blanches ou de culture ou de confession juive, et de l'autre des associations qui, à partir des années 2000, explicitent leur volonté de parler au nom des personnes concernées, de ne pas être représentées par d'autres personnes. Elles entendaient s'opposer dans ce sens-là particulièrement à SOS Racisme, qui, fondée dans les années 80, était considérée comme une récupération illégitime d'un mouvement populaire de la Marche pour la Dignité qui avait eu lieu dans la région lyonnaise dans les années 80. Et fort de cette expérience-là, jugée très négative, au début des années 2000, un certain nombre de mouvements s'inspirant du mouvement d'immigration des banlieues, etc., ont décidé de porter les revendications antiracistes elles-mêmes. Et cela a créé une sorte de clivage entre ces différentes traditions et générations de militants. Donc je me suis familiarisé avec tout ça, parce que tout ce que je viens de vous le dire, je le savais de manière très très générale, mais pas du tout dans les détails. Donc déjà, il a fallu me familiariser avec tout ça. Et malheureusement, comme c'était seulement un an, je n'ai pas pu faire beaucoup de choses. Et surtout, compte tenu de la méfiance des militants antiracistes politiques vis-à-vis des chercheurs, j'ai surtout pu interviewer des personnes issues de mouvements se réclamant d'un universalisme, comme la Ligue des droits de l'homme, le MRAP. J'ai essentiellement pu interviewer, rencontrer, participer à des rencontres organisées par des militants du MRAP et de la LDH, la Ligue des droits de l'homme.
On dit dans l'univers, nous se nomme la terre. Les belles animaux, bon Dieu, à présent nous à l'envers, pour pas qu'elle nous perd. C'est nous qui vîmes plus mauvais. La nature qui a fait beau temps, elle avait mauvais temps. Beau temps, mauvais temps, aux éjardins, à n'importe qui monde. On nous ensemble, pas laisser des mondes à évoluer. Si on combat, nous te doit être mêlé. Africains qui tombent et la splévé.
Africains qui tombent et la splévé.
Algériens qui tombent et la splévé. L'Afrique ici nous donne, c'est la portée. A Simone la yo mette sa rette. Les autres de 27 ans derrière barreau. Mais il va jamais vendre mal plus haut. Africain qui tombe et la splairé.
Africain qui tombe et la splairé.
Marocain qui tombe et la splairé.
Africain.
Passez par la famine rouille, passez par la dictature rouille, passez par la misère rouille, l'autre côté épidémie rouille, passez par la division rouille, ouais, passez par la norme séquestre rouille, passez par la problème rouille, l'autre côté c'est tout fusil rouille. Souvent c'est yo malade, bien souvent aussi, c'est yo qui misérable, allez chercher qui monde qui responsable. Mes doigts dans ton probable. Africain qui tangue la splérée.
Africain qui tangue la splérée.
Algérien qui tangue la splérée.
Africain qui tangue la splérée.
Nomme la terre qui tangue la splérée.
Africain qui tangue la splérée.
Tiri va yo papa bateau.
Africain qui tangue la splérée.
Céréal va yo papa bateau.
Africain qui tangue la splérée.
Dévoré, bon appétit, continuez, dévoré.
Africain qui tangue la splérée.
Dévoré, bon appétit, continuez.
Où est-ce qu'on en est dans les sciences sociales aujourd'hui de cette notion de race, justement ?
Moi, l'analyse que j'en fais,
Harry
c'est
Gordon.
Que on est passé, je ne sais pas très bien comment et à quelle période, d'une conception de la race qui était raciste, c'est-à-dire qui considérait qu'il y avait des différences biologiques entre les hommes, et que c'était surtout sur la base de l'apparence qu'on pouvait distinguer objectivement une race blanche d'une race au sommet, bien sûr, d'une race noire à la base de la pyramide, et d'autres races qui seraient jaunes, rouges, etc. Et ça, jusqu'au XXe siècle, c'était des idées qui étaient quand même assez banales, qui étaient apprises dans les manuels scolaires des petits Français, qui était véhiculé par la propagande coloniale, etc. Et lorsque ce n'était pas la couleur ou le phénotype qui était mis en avant, c'était de prétendues différences culturelles, civilisationnelles, où les Européens seraient arrivés à un stade de développement de civilisation inégalé par rapport aux autres populations, etc. Donc ça, on en est globalement revenu, même si malheureusement on voit bien qu'il existe encore des mouvements de plus en plus en vogue à l'extrême droite qui reprennent ces idées-là. Et c'est d'autant plus dommageable que la France a changé. Il y a un certain nombre de personnes françaises aujourd'hui, une proportion de la population française qui n'est pas blanche, en fait. Donc ça vient vraiment interroger sur le plan politique, en tout cas, ce qu'on considère comme étant des Français. Et en fait, sur le plan académique, ce qui s'est passé, c'est que ces idées ont été remises en question aux États-Unis, déjà par beaucoup d'anthropologues, mais en France aussi. On a clairement considéré que, à la suite de travaux de généticiens, de biologistes des populations, que la notion de race ne peut pas être utilisée pour distinguer des différents types d'êtres humains. En revanche, assez clairement, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée s'est imposée que les races n'existaient pas, mais que le racisme existait. Il y a eu toute une tendance à analyser les idéologies racistes et parfois aussi les inégalités raciales qui persistaient. Par exemple, Michel Léris, dans les années 50, a effectué une anthropologie des Antilles pour essayer de comprendre comment, à peu près un siècle après l'abolition de l'esclavage, les mesures assimilationnistes mises en place par la France pour donner la citoyenneté et le droit de vote aux anciens esclaves, pour graduellement transformer ces anciennes colonies en départements français, eh bien, quel avait été l'impact concret de ces politiques assimilationnistes. Et en fait, malgré tout, cette condamnation du racisme dans la pensée intellectuelle française, à de rares exceptions, elle a conduit à en faire une sorte de tabou, comme si parler de race signifiait être raciste, et que, comme il n'existait pas de race et qu'il n'était pas bien vu de parler de race, et qu'on associait ce terme-là véritablement à des différences biologiques et à une pensée raciste du 19e siècle, reprise après par les mouvements fascistes, nazis, etc., qu'il fallait peut-être un peu balayer la poussière sous le tapis. Et pendant assez longtemps, même s'il y a eu des travaux de Françaises et de Français très importants sur la question, je pense à Franz Fanon, ce psychiatre martiniquais qui a rejoint le mouvement de libération algérien, qui a théorisé en tant que psychiatre aussi sur la race, le racisme, le colonialisme. Il y a Colette Guillaumin et un certain nombre de sociologues qui ont expliqué que, bien sûr, que les races n'existaient pas, qu'il y avait des processus de racisation, puisqu'on parle de racisé aujourd'hui, mais la racisation démocratisation. C'est Colette Guillemin qui a proposé cette notion-là et qui l'a définie dès 1972. Donc il y a une pensée française sur ces questions-là, qui est assez complexe, complète, et qui apporte un certain nombre d'éléments. Mais globalement, sur le plan de la structuration de la recherche française, ces thématiques-là ne se sont pas constituées en champs de recherche dans les universités, au CNRS, à l'Institut de recherche sur le développement, contrairement à ce qui s'est produit aux États-Unis, où on ne pouvait pas mettre de côté la question raciale, puisqu'après l'esclavage, il y a eu la ségrégation jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait des formes d'exclusion. En France, la question de l'immigration venait quelque part brouiller les pistes, puisqu'on parlait plutôt d'intégration, d'assimilation des étrangers, et non pas de racisme, de discrimination. Et il faut attendre les années 2000 pour que, politiquement d'abord et par la suite sur le plan académique, il y ait une vraie réflexion sur ces discriminations, qu'il y ait une prise de conscience du fait qu'on ne parlait pas d'étrangers qui s'intégraient ou qui devaient s'assimiler, mais de Français avec des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents issus des anciennes colonies, qui avaient des droits et des devoirs, mais à qui certains droits étaient déniés du fait de discrimination. Et là, on en est à un stade où cette prise de conscience est faite dans certains milieux, mais il y a une résistance, double résistance. Premièrement, une résistance de la part d'intellectuels se qualifiant de droite, qui considèrent que, encore une fois, que ce sont les personnes, et ça c'est une rhétorique politique assez ancienne, ce sont les personnes qui abordent le racisme, qui sont racistes et qui divisent la population. On a aussi une résistance de la part de marxistes, qui par orthodoxie marxiste considèrent que le critère principal c'est la lutte des classes et la question sociale, et que lorsqu'on évoque la question raciale, on vient diviser la classe des travailleurs, et qu'en fait, on crée des distinctions non nécessaires, et qu'on n'aborde pas les vraies questions, on n'aborde pas les vrais problèmes. Et il y a un troisième mouvement, en réaction à ça, qui consiste à aborder frontalement la question raciale, en disant que il existe une question raciale en France, qu'il faut la prendre à bras-le-corps, mais qui, pour le coup, comme pour tordre le bâton dans l'autre sens, va avoir tendance à d'abord analyser les questions en termes raciaux. En termes raciaux compris non pas comme des différences biologiques entre les populations, mais comme rapport de racisation, de construction d'une différence raciale, de reproduction d'inégalités, de préjugés. Et ça donne des choses tout à fait innovantes dans le champ universitaire français, mais ça vient créer quelques frictions, puisque on se demande dans quelle mesure cette manière d'aborder ces questions-là, d'abord à travers le prisme de la race, ne conduit pas à minimiser une forme d'intersectionnalité. C'est-à-dire que si on prend d'abord la classe comme variable pertinente à analyser, se pose la question de est-ce qu'on l'articule avec la race ? Comment ? Qu'en est-il du genre, du validisme, des questions de sexualité ? Donc ça vient soulever tout un tas de questions très intéressantes et importantes, mais pour lesquelles il n'y a pas de réponse facile en fait. Ça soulève de nouveaux défis en fait. Comment prendre en compte la complexité des rapports sociaux ?
Je suis grande gueule, je suis vandale, je suis pointé du doigt s'il y a scandale. J'égorge n'importe qui pour 600 balles. Je rappe sur l'assemblée, j'applaudis, je suis trop sentimental. Partout je vois des gens qui m'en veulent, je te souris rapidement, je te pisse dessus quand on s'engueule. Je n'aime que mes semblables, je fréquente qu'un seul club, la bande d'associables, tu vas mon immeuble. Je suis bête, brutal, borné, buté, je vous souhaite que du mal, je suis mal éduqué. J'avais que d'argent, j'ai débuté. Aujourd'hui toujours que d'aller. Mes têtes ont décuplé, tu m'invites, j'explique, j'suis pas un bon plan, j'arrive bourré en retard avec mon clan. Je viens de te faire perdre ton temps, je veux me cacher maintenant et cacher, je me barre en courant. N'essaie pas de m'approcher, n'essaie pas de m'approcher, n'essaie pas de m'approcher, n'essaie pas de m'approcher. Crapule, crac, crapule, crapule, crac, crac, crapule, crapule. Pas dit, oui, oui, je compte te faire la misère et surtout si t'es gentil. Si je t'ai parlé, je t'ai menti.
tout ce qui te plaît, moi je le plie, je le cache, l'anéantis. J'aime pas quand tu m'appelles, j'm'en tape de ta vie ou d'avoir de tes nouvelles. J'suis pas ton ami fidèle, l'occasion de t'enculer. Je n'attends qu'elle, ma gueule c'est l'essentiel. J'suis sans cœur, bluffeur, mentard, troussard. J'mets que des kicks par derrière dans la bagarre. Chez toi j'fouille tous les tiroirs, tu m'cherches, il est trop tard. J'ai vidé tes comptes pour la plupart. J'veux ta part, j'veux ta thune, j'veux la part, j'veux la gloire. Et j'ferai aucun effort pour l'avoir, menace à la machette ou au rasoir. J'te délaisse, tu me détestes, j'suis une star chez des bâtards. C'est moi. Crapule, crac, crac, crapule, 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 crac, crac, 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 crapule, crapule. N'essaie pas de m'approcher.
Après la Deuxième Guerre mondiale, voilà, il y a cette remise en question de la notion de race, qu'elle était connue de façon biologique et tout, mais on commence de plus en plus, c'est ce que disait Lévi-Strauss à ce moment-là, à parler de culture aussi, comme si la culture finalement remplaçait un moment la notion de race avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'essentialisme culturel aussi, où on pourrait dire, oui, qu'il y aurait des cultures mieux que d'autres, ou ce genre de choses, où il y a encore de toute façon une forme de racisme à l'endroit de la culture. Alors, qu'en est-il de cette notion de culture ? Et c'est aussi une façon pour moi d'arriver à la question de l'appropriation culturelle. Mais peut-être revenir sur cette notion de culture et la place qu'elle prend, justement, après la race.
Oui, complètement. Et en fait, même si je suis tout à fait en désaccord avec certaines de ces analyses contemporaines, notamment dans le domaine politique, c'est aussi Pierre-André Taguieff qui avait bien analysé comment la pensée de droite s'était adaptée, en fait, à ce monde où la race était devenue tabou et avait graduellement cessé d'utiliser un langage explicitement racial pour parler de civilisation, de culture, etc. Et dans ce sens-là, il est important de distinguer deux sens du mot race. Le mot race, comme je l'ai dit, d'abord considéré comme un terme pseudo-scientifique qui va analyser les différences biologiques, génétiques entre les populations. Donc ce terme, cet usage-là, c'est du racisme en fait. Hein, ça peut être du racisme scientifique ou populaire, mais c'est du racisme, comme il a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et il y a un deuxième sens du mot race, et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on se dit, mais du coup, auquel de ces deux sens on se réfère ? C'est terme de race, comme le dit la sociologue Sarah Mazouz, comme catégorie d'analyse, comme outil qui se veut critique, qui se veut constructiviste, c'est-à-dire qui ne croit pas à la pensée raciste. C'était pas la race telle que les racistes l'utilisent, c'est la race comme construction qui va venir créer des séparations entre les populations, qui va naturaliser en fait certaines différences en considérant que non seulement sur la base d'une couleur de peau, d'une religion, d'une supposée culture en fait, qu'il y a eux et nous, et que les eux en fait sont différents, autres, inférieurs, ne méritant pas les mêmes droits, etc., etc. Finalement, on se rend compte que même si on n'utilise pas le terme race dans le premier sens, en analysant certains usages qui sont faits du mot culture, en fait, on en revient à une question raciale de biologisation de la différence de l'autre pour l'inférioriser. Ça apparaît assez nettement dans la notion de grand remplacement, de choc des cultures, de choc des civilisations, où, soi-disant, on se réfère à un héritage un peu civilisationnel, anthropologique, on parlerait pas du tout de couleur ou d'origine, etc., alors qu'en fait, on voit très bien à qui on se réfère. Et on n'interroge pas du tout le sort réservé à des personnes qui seraient finalement dans des situations d'entre deux ou d'entre trois cultures, en fait, qui seraient, par exemple, français avec un grand-parent vietnamien et l'autre togolais, par exemple, mais qui auraient grandi toute leur vie en Seine-et-Marne ou dans les Bouches-du-Rhône. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Donc, du coup, il faut faire très attention à ces usages de la culture comme proxy, en fait, comme manière détournée de parler, en fait, de race.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette notion de culture et d'appropriation. On y vient, puisque pour moi, elle est assez éclairante sur justement les usages de la culture aujourd'hui et de cette notion. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire en tant qu'anthropologue par rapport à cette polémique très médiatisée, et qu'en est-il anthropologiquement parlant, quoi, de cette notion d'appropriation?
Sur le plan de l'anthropologie, pour le moment, Gordien, je n'ai pas l'impression, en France en tout cas, que nous, anthropologues, nous soyons saisis de cette notion-là pour en faire vraiment une catégorie à partir de laquelle on explore le monde social. On en est encore à un stade où on observe avec prudence cette catégorie dont on n'a pas encore très bien compris, on en parlera au bistrot des ethnologues, on n'a pas encore très bien compris d'où elle venait, on n'a pas encore compris qui concrètement a proposé cette notion, dans quel but, mais ce qu'on constate, c'est que la manière dont elle est utilisée est plutôt politique. Elle vise surtout à condamner certains usages de pratiques culturelles, surtout par les personnes considérées comme occidentales, blanches, majoritaires, voire dominantes, et qui utiliseraient ou voleraient ou s'approprieraient, surtout dans le monde artistique et créatif, des bijoux, des artefacts, ça peut être aussi des œuvres d'art dans les musées, et surtout des musiques, des danses, des styles vestimentaires, qui sont perçus comme appartenant à des minorités ethno-raciales ou à des populations non occidentales. Donc c'est surtout ce qu'on observe, l'appropriation culturelle est surtout utilisée pour dénoncer ces formes d'emprunt culturel. Le problème, il est le suivant, c'est-à-dire que en tant qu'anthropologue, on a appris à ne plus distinguer les populations de manière rigide, que ce soit sur un plan racial, biologique, génétique ou sur un plan culturel. Pendant un moment, on l'a cru, même nous, anthropologues, qu'il y avait les X, les Y, les Z, que c'était des populations bien déterminées, etc., jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, ces populations, toutes les populations, sont issues de mélanges, de rencontres, et qu'en fait, à partir du moment où une de ces populations dit « je suis X », en fait, elle est déjà dans un processus politique de construction d'elle-même pour défendre des intérêts matériels et symboliques, c'est-à-dire défendre un terrain, défendre l'accès à telle ressource ou se valoriser par rapport aux autres. Donc dans ce sens-là, il devient compliqué pour nous, lorsqu'on a affaire au discours de populations historiquement dominées, racisées, etc., qui empruntent le même discours en disant « nous sommes des X et les Y dominants, blancs, occidentaux, nous volent ce qui nous appartient à nous et qui n'est rien qu'à nous », mais ça vient en fait nous bousculer, parce que l'anthropologie est quand même passée globalement d'une science qui était complice du colonialisme à une science qui, dans la grande globalité, malgré beaucoup, beaucoup de problèmes qui perdurent, une science qui se positionne du point de vue des opprimés, du point de vue des populations non occidentales qui ont été colonisées, esclavisées, etc. Du coup, ça nous met un peu dans l'embarras. On se dit, mais en fait, ce discours essentialiste, culturaliste de notre culture, votre culture, si on le déconstruit lorsqu'il vient des dominants, qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'il vient des dominés? Est-ce qu'on le déconstruit de la même manière? Quels autres enjeux, puisqu'ils sont forcément différents quand ça vient des dominés, quels sont les autres enjeux qui se posent lorsque ces discours-là viennent des dominés ou des personnes qui se ressentent comme dominées, altérisées, etc., etc. Et en fait, je pense que c'est tout le débat un peu académique et politique, puisque les deux sont toujours, à mon sens, à différencier, mais toujours articulés. De ces deux points de vue-là, comment se débrouiller en fait, avec la notion d'appropriation culturelle?
Il est. Essayez-moi avant il maille. Collez-moi chez le chef ou laille. Si moi en sape qu'en y baille. La ni rivienne ou mouke chaye. Doit ou gauche ou ado qui bo. Bouge à l'émoi ado qui lot. Et comme un café musique ou rêvez moi en compte en billa. Il a ka
vini si vous passez à ça ou le si vous posez en question ma tenue réponse à ou le red flag mon type sentimental c'est ça l'op la panique sentimental ça fait tout ça mon dit mon café on y ouvre chez moi à travers ce
commande il rêve moi en Colombia en Colombia il rêve moi en Colombia en Colombia il a cassé il a cassé.
qu'est-ce qui, selon toi, à l'heure actuelle, dans la société globalisée dans laquelle on vit, qu'est-ce qui fait que cette notion d'appropriation culturelle devient presque virale, on en parle énormément, elle est très très médiatisée. Comment on peut expliquer d'un coup cette valeur qu'on attribuerait à la culture depuis l'espace des dominés ou en tout cas des cultures minorisées?
Je me demande si on parle véritablement de culture. C'est un peu l'analyse que j'en ai faite et que je suggère. Hein. C'est vraiment un moment de ma réflexion qui sera sans doute amené à évoluer. Bien sûr, on parle de production culturelle, hein, ça c'est sûr. On parle, si on regarde, comme on l'a fait avec Jocelyne Streif-Fénard et Jean-Luc Bognol, avec lesquels j'ai co-coordonné, pour le coup, le numéro de Appartenance et Altérité qu'on a consacré à la question. Dans l'introduction, on a vraiment essayé de voir mais d'où ça vient, quelles sont ces accusations d'appropriation culturelle, sur quoi elles portent. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était quoi? La mode, la musique, le cinéma, la coiffure. Donc vraiment, on parle de production culturelle, de pratiques culturelles à chaque fois, de yoga, de rap, qui peut faire du rock'n'roll, qui peut faire du R&B, etc. Donc on voit quand même que ça concerne des objets culturels, mais il m'a semblé que à chaque fois, la question sous-jacente n'était pas forcément l'objet culturel, c'était plutôt la légitimité d'une personne non issue de telles populations historiquement altérisées, subalternisées, etc. Donc l'utilisation, oui, de la pratique ou d'une culture d'une population qui a été historiquement subalternisée, esclavisée, altérisée, par des populations communément désignées comme blanches, issues du monde occidental et perçues comme dominantes. Donc il me semble que derrière, finalement, la question véritablement culturelle, se posait la question raciale et la question coloniale, c'est-à-dire la question des inégalités et des rapports de force instaurés par l'histoire coloniale et qui se reproduisent dans l'ère postcoloniale dans laquelle on se trouve et dont on sortira jamais, puisque
la
colonisation, il y aura toujours un après-colonisation quelque part. Donc ça a été décolonisé et on est dans une période qui fait suite à la colonisation en termes purement temporels et historiques et de périodisation. Mais surtout, comme le disent les auteurs postcoloniaux et un peu décoloniaux, c'est surtout qu'on vit dans un monde qui a hérité un ordre mondial et des ordres sociaux au sein des différents États, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en France et ailleurs, qui ont hérité de rapports sociaux qui sont généalogiquement issus de cette histoire coloniale et esclavagiste. Donc, au stade où j'en suis de mes réflexions personnelles et des réflexions collectives que j'ai eues avec les collègues mentionnés plus haut, je vois qu'on est dans un monde où il y a une conscience de plus en plus aiguë qui passe par les réseaux sociaux, qui passe aussi par une forme d'hégémonie états-unienne où les États-Unis n'avaient pas le luxe, entre guillemets, comme en France, de dire « Ah non, non, pas chez nous », puisqu'en fait, c'est une ancienne colonie devenue indépendante, qui a continué à pratiquer l'esclavage, qui après l'abolition de l'esclavage a continué à coloniser les terres, à exproprier à les terres des populations autochtones, à trouver des moyens de les supprimer, qui ensuite a mis en place un système de ségrégation raciale qui a continué. Donc là, enfin, ne pas parler de race aurait été complètement absurde, même s'il y en a qui le préconisent, hein, dans l'équipe du président des États-Unis d'ailleurs. Mais il y avait une évidence de la race qui empêchait et qui continue à empêcher de faire comme si ça n'existait pas. Alors qu'en France, comme dans d'autres pays européens, avec l'histoire coloniale et l'histoire des immigrations, il y a pu y avoir l'impression que c'était une question qui concernait des ailleurs et qui ne concernait pas ces espaces européens. Et j'ai l'impression que cette focalisation sur le débat autour de l'appropriation culturelle est aussi l'une des déclinaisons de la manière dont on prend conscience des effets au long terme de l'histoire coloniale et esclavagiste.
Vous l'avez dit tous les trois dans l'introduction de cette revue, cette question de la légitimité, elle est centrale parce que elle aurait comme force politique de permettre à des groupes qui ont été délégitimés de faire des procès en légitimité aux dominants. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, c'est vraiment là que ça se passe, en tout cas, dans ce domaine des objets culturels.
Oui, complètement, puisque pendant longtemps, je pense qu'il n'y avait pas de légitimité politique à poser ces questions-là. Et à partir du moment où il existe une population, pour ce qui concerne la France, qui est née, qui a grandi dans l'Hexagone, non pas outre-mer et non pas dans d'anciennes colonies ou d'autres espaces, qui a grandi sur ce territoire national, national, qui a des droits et des devoirs, qui a des grands-parents, des arrière-grands-parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont été des citoyens français, il y a un sentiment de plus grande légitimité à aborder ces questions-là. Et peut-être aussi des formes de lassitude qui expliquent qu'il n'y ait plus de volonté de faire avec. Ou en tout cas qu'il n'y ait plus de volonté d'attendre, d'être patient. Il y a une forme d'urgence, en fait, de la revendication, de reconnaissance, d'égalité immédiate. Et je pense aussi que c'est l'histoire des idées qui veut ça. J'ai parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Je pense vraiment qu'avec les réseaux sociaux, des écoles de pensée comme les auteurs décoloniaux d'Amérique du Sud, bon, qui sont plus ou moins lus, où on a des interprétations plus ou moins fidèles à ce qui a été dit, qui sont digérées, comprises de manière spécifique, mais qui en tout cas sont relayées par des mouvements politiques, relayées par des influenceurs, etc. Je pense que tout ça explique aussi que des générations plus jeunes se saisissent de ces idées-là pour revendiquer leur place. Et je pense qu'il y a peut-être aussi, comme ils disent aux États-Unis, la notion de payback, pas de vengeance, en termes on va inverser les rôles, mais de payback dans le sens où nous sommes sentis tellement longtemps illégitimes à parler que maintenant que nous pouvons le faire, et que nous pouvons le faire avec ces armes-là, ben, nous le ferons de manière décomplexée, voire dans certains cas avec une forme d'outrance et de provocation.
Que lo que miente, es el dembow French Caribbean, pa la 42.
Y'a la popo, la lili, la police. Y'a qui ban man, mauvais femme, qu'on cabrié la soliste. Sous cap était fort, plus fort qu'un touriste.
Et t'énerve les touristes.
Lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos. Comme nous n'y l'ox, nous tout la cavon d'eau. Pougou j'en ai pété, j'y cabon. Lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos. Comme nous n'y l'ox, nous tout la cavon d'eau.
Maintenant tu n'as plus les filles, c'est pas ni gardien matché bien no chat, j'ai pété no fake no. Et à soleil ou en bas la pluie, viens vivre la vie au lieu de crier Babylone, qu'est-ce qu'il y a?
Maintenant tu nous l'as, 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 tu nous l'as. Maintenant tu n'as plus les filles, maintenant tu n'as plus les filles, pour les filles, pour les filles, pour les filles.
Yo, no estamos buscando, ellos siguen hablando. Yo ando con Marila para él, estamos dando. Aquí le mamá grupo de ellos se están llenando porque chamaquito está subiendo, ching a ching. Diablo está subiendo a ching a ching, ching. Ay, se juntaron los martiniqueños. Ay, 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 con los dominicanos. Ay, 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 mi mai. Ay, 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 mi mai. Ay, se juntaron los martiniqueños. Ay, 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 con los dominicanos. Ay, 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 mi mai. Ay, 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 mi mai.
Chabé pas le modo que puto yon bula. Santo Domingo, Punta Cana. Tu connais l'état, puis c'est très délicat. Ma tabola, kiloki, wawawa. Kiloki, wawawa. Kiloki, wawawa. Kiloki, wawawa. Kiloki, wawawa. Fia dit, mais il est fait con Noelia. Que Adriana Trujita sorti ma d'arrivé Barcelona. Check mes V2V, check mes terres, c'est villa. Bonita, 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 bonita. Au pays, fuck ma chérie, Glock 17 là. Au pire de guerre, Pinella est toujours là.
Rocoqueo, rocoqueo, singueteo, singueteo. Ven, quítame los panties, ven, dame deo. Que yo sentí fuego, fuego, fuego. Papi chulo, yo te quiero, quiero, quiero. En la cama quiero fuego, fuego, fuego. La Molly lo tiene loco, yo sé que te provoco. Es que tengo saoco, eso te tiene loco, 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 loco. Piloneo, 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 tú mejor que yo, yo no lo creo. Piloneo, 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 tú mejor que yo, yo no lo creo.
Dog side, si vous un bad boy, ghetto, mode we outside. Nous c'est des sunside, avec des chicas outside. Mode où ça fantastique, avec des bombastiques, ça hallucinant. Et garça, t'y bail, nous pas ni temps pour faire des tailles. On y chebe, y'en pas tête en douce, backshot pour bail. Backshot pour bail, mode où c'est backshot pour bail. Eve DJ, tu sens qu'à sortir comme Dubai. Sorti crier, mais really, dis-moi, one life, ka bail. Nous peke des séfia, bye bye.
On me plante des petits c'est bigas. Ça, qu'après moi, ben, les dias, mais certains. J'ai beaucoup ton aïe, j'ai quoi soukoué tête. Basse la ka, foutez mon mal tête donc. Tu tues, baye basse, pour you ça soukoué fesse. Aka y'a ni yéki femme pour fesse. Un dé anti casse, moi la ka fake sexy. Maman foot, ma zèle ni peps.
Tu tues, bad boy, la massa. Yo son José Shannon, Noelia.
Don Meme.
Meri.
Pour finir, Harry, après notre soirée sur l'appropriation culturelle, tu vas retourner à Marseille. Et donc, sur tes nouveaux objets de recherche, tu parlais d'histoire des idées et tu disais qu'il y a une quinzaine d'années, tu n'avais pas pu aller jusqu'au bout de ta recherche puisque le milieu académique dans lequel tu étais n'était visiblement pas apte à entendre et à travailler ces questions-là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce retour vers ton premier objet d'étude ?
Premièrement, ce qui a été intéressant, c'est que lorsque j'ai proposé un un article de recherche 10 ans après mon mémoire de Master 1
dont
j'ai parlé au tout début de notre conversation. J'ai eu, pour ceux qui ne savent pas, pour pouvoir être publié dans une revue académique, il faut être évalué par des pairs, en général à l'aveugle. Donc on ne sait pas qui est-ce qui nous évalue, parfois on le devine. Et en fait j'ai été évalué par une personne très bienveillante, qui ne comprenait pas pourquoi je ne mobilisais pas certains concepts, la racialisation de manière plus affirmée, pourquoi je ne mentionnais pas des autrices et des auteurs qui avaient théorisé la notion d'intersectionnalité, donc comment prendre en compte différents rapports sociaux, etc. Et en fait, j'avais envie de répondre à cette personne, mais je ne pouvais pas, puisque je ne savais pas qui c'était, mais en fait, simplement parce que je ne le savais pas. Parce que dans le milieu académique, comme tu l'as dit, dans lequel j'avais fait 10 ans auparavant ce mémoire, je n'avais pas du tout été formé à ces questions-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que le milieu académique français est vaste, qu'il y a beaucoup de petites niches, que parfois ça ne circule malheureusement pas très bien, et qu'il y a des réseaux de personnes qui s'intéressent au féminisme afro-américain, à la notion d'intersectionnalité, qui depuis, je l'avais dit, des années 70, abordaient la question de la racisation, etc. Et en fait, ça ne circule pas forcément, ça n'est pas arrivé en tout cas aux collègues seniors qui encadrait mes recherches à l'époque. Et en fait, grâce à cette proposition d'article, j'ai été relu par des gens qui, au contraire, étaient tout à fait au fait de ces questions-là, et ça m'a semblé être une évidence que les notions qu'ils me suggéraient, les concepts, les outils qu'ils me proposaient étaient tout à fait, on va dire, adaptés pour interpréter mes données, qui étaient vieilles de plus de 10 ans maintenant, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte qu'il y avait eu 2 évolutions. D'une part, les collègues qui abordent ces questions-là de cette manière-là sont plus nombreuses et nombreux, qu'il y a une forme de reconnaissance dans des sphères de plus en plus grandes des sciences humaines et sociales de la validité, de la légitimité des recherches sur le fait colonial, les mécanismes de racialisation, l'imbrication des rapports sociaux, genre, sexualité, race, validisme, voire grossophobie, etc. etc. Et de l'autre côté, les personnes que j'interview aujourd'hui, j'ai fait un exercice assez intéressant d'interviewer aussi des personnes plus âgées, d'une 50aine d'années, qui s'avéraient être des hommes gays antillais, et ça n'a pas du tout donné les mêmes résultats. Donc ça, je l'ai fait autour de la période du confinement en 2020. Les résultats et les entretiens étaient complètement différents de ceux que j'avais fait en 2008, puisque ces personnes de 50 ans, en 2020, même si elles avaient vécu des choses similaires à celles que j'avais interviewées en 2008, elles avaient aujourd'hui 50 ans, elles avaient écouté des podcasts, elles avaient entendu parler Rokhaya Diallo, etc., etc., et elles avaient une toute autre approche de leur propre expérience de racisation, d'homophobie ou simplement de sociabilité gay, etc., etc. Et de la même manière, à Marseille aujourd'hui, les gens que j'interview qui ont à peu près mon âge ou qui pour certaines ont pratiquement la moitié de mon âge aujourd'hui et qui sont déjà de jeunes adultes ont beaucoup plus accès à ces réflexions, à ces idées relatives à l'intersectionnalité, sont beaucoup plus en mesure de vivre, contrairement à celles que j'avais interviewées en 2008-2009, des doubles appartenances musulmanes et queer lesbiennes, trans et musulmane arabe, noire musulmane et lesbienne, gay et comorien et noir. Et en fait, les catégories sont peut-être un peu plus fixes dans le langage qu'ils utilisent, mais la contrepartie, positive pour eux, en tout cas, faudrait voir ce que ça donne sur le long terme, c'est qu'ils vivent moins comme un conflit d'allégeance ou une difficulté à combiner différents aspects de leur socialisation. Et du coup, c'est intéressant et ça me force... Il y a un nouveau numéro paru récemment d'Appartenance et Altérité autour de l'articulation entre monde académique et monde militant. Mais ça force en fait à réfléchir à ce que nous faisons, nous, anthropologues, et à la place de ce que nous faisons dans le cadre de ces débats qui sont même plus militants, qui deviennent des débats de société, que s'approprient des gens qui ne sont pas forcément activement impliqués dans une organisation, dans un syndicat, dans une association, quoi que ce soit, mais qui vivent leur vie au quotidien, mais qui font un usage quotidien de ces catégories-là. Et c'est ce que je trouve intéressant, et ça nous remet un peu à notre place, qui est jamais une mauvaise chose.
Merci beaucoup, Harry Gordien.
Ben merci à toi, c'était un vrai plaisir de parler de ça, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir ces échanges ce soir.
Merci, à bientôt. Voilà, c'était une heure d'anthropologie avec Harry Gordien. Vous pouvez également réécouter la séance sur l'appropriation culturelle que nous avons organisée au Bistrot des Ethnologues le 5 novembre dernier. Vous la retrouverez dans son intégralité sur la page internet du site du Bistrot www.ethnobistrot.fr à la rubrique podcast et archives. Pour la musique, c'était DJ Sheita, Beyoncé, Akiyo, Vukum, Osgang, Meryl et DJ Tutus. Cette émission sera rediffusée vendredi qui arrive à 9h30. Elle restera bien sûr en accès libre toute l'année sur la page podcast du site de Radio Escapade, mais aussi un peu plus longtemps et à votre guise sur l'audioblog d'Ethno Vibro hébergé par Arte Radio. Je vous donne rendez-vous avec le Bistrot des Ethnologues de Montpellier pour la prochaine séance. Ce sera le mardi 7 janvier à 19h30 à l'habitat partagé Clément Cité, 11 boulevard Berthelot à Montpellier. Nous rencontrerons Pierre Servin qui nous présente son ouvrage « Faire de l'habitat un commun, les habitats participatifs dans l'ouest de la France ». Bien sûr, vous pouvez aussi y assister en visioconférence, c'est assez extraordinaire. En attendant, je vous donne rendez-vous à la journée d'études Espace urbain et pratique musicale, une scène politique sonore, journée d'études franco-lusophone, organisée à la Maison des sciences de l'homme Paris Nord. Ce sera aussi en visioconférence le mercredi 18 décembre. Vous pouvez participer en envoyant un mail à urbasonore@gmail.com. Et cela fera peut-être l'objet de la prochaine émission. Ce sera le 14 janvier. Je vous souhaite de belles vibrettes à tous pour cette fin d'année et à très vite.